Salut tout le monde, bonjour Monsieur Eric.
Salut Monsieur Martin.
Bonjour à nos auditeurs fidèles.
À nos fidèles auditeurs.
Donc on revient d'un petit séjour à Valence et puis donc on va faire une deuxième partie de l'interview avec Laurent de la Mutuelle qui va nous présenter deux roulables.
Voilà, c'est la suite de notre émission du mois de novembre, donc toujours sur les équipements.
Voilà, et grazie mille, vale.
Hey.
Laurent, est-ce que tu as un lien avec deux roulables?
Ben oui, j'ai un lien avec deux roulables parce qu'en fait, figure-toi que deux roulables, depuis le mois d'octobre, a rejoint la cellule innovation dont je m'occupe.
Tu peux expliquer ce que c'est?
J'avais un lien depuis longtemps. Alors, deux roulables, en fait, c'est un laboratoire d'études qui a été créé par la Mutuelle des Motards en 2011 et qui a pour vocation, effectivement, de mieux connaître les motards, leurs usages, leurs pratiques. Et essayer justement de faire progresser, on va dire, l'état de l'art sur le deux roues motorisé.
Et donc ça vous sert pour tout ce qui est sécurité?
Ouais, tout à fait. En fait, on a aujourd'hui 6000 contributeurs. Enfin, ce sont des motards. Alors, ils ne sont pas tous assurés à la Mutuelle des Motards, et tant mieux, parce que comme ça nous permet d'avoir différentes pratiques et usages. Donc c'est 6000 personnes qui donnent de leur temps pour répondre bénévolement à des questionnaires qu'on met en ligne. Là, le dernier, par exemple, on a fait une grosse étude sur les moyens de protection parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui était publié sur le sujet. Donc, on a fait une grosse enquête sur les moyens de protection pour justement essayer de mieux comprendre comment protègent leur moto les motards, le budget qu'ils y consacrent, leur pratique. Est-ce qu'ils gardent plutôt un endroit éclairé? Est-ce qu'ils s'en moquent? Est-ce qu'ils utilisent plutôt des anti-volants U? Est-ce qu'ils utilisent des traceurs? S'ils n'utilisent pas des traceurs, pourquoi ils n'utilisent pas des traceurs? Qu'est-ce qu'il faudrait leur faire changer d'avis? Voilà. C'est une grosse enquête qu'on a fait il n'y a pas longtemps, dont les résultats sont dans Moto Magazine du mois d'octobre, justement. Voilà, donc on fait, alors c'est les moyens de protection, ça peut être le transport de passagers, ça peut être une enquête sur l'équipement du motard, l'équipement de la moto, ça peut être aussi des études qu'on fait en partenariat avec des laboratoires comme l'université Gustave Eiffel, qu'on appelait avant l'IFSTAR, qui travaille aussi justement sur les problématiques liées à l'accidentalité des motards. Donc voilà.
Donc sachez que si vous voulez contribuer à ça, c'est possible. Hein. Donc sur internet, vous tapez deux roulables et puis après il y a toute une procédure pour s'inscrire et voilà. Mais ça peut être très intéressant pour tout le monde parce que donc ça permet de donner son point de vue et d'être entendu pour les futures innovations.
Voilà. Tout à fait.
Voilà. Et l'avantage c'est qu'en plus pour les contributeurs, on leur fait une restitution spécifique pour eux. En priorité, en primeur, en fait. Ils ont toujours les résultats.
Mais après, ne pas oublier, effectivement, comme tu disais, Motomag, où même ce mois-ci, il y a un spécial équipement, en complément donc de l'émission.
Voilà, et d'ailleurs, tous les résultats de Certimove, on en a parlé la dernière fois, Certimove.com, qui est le protocole de test des casques. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je vais en profiter aussi pour faire un petit focus sur Certimove. Donc aujourd'hui, Certimove, c'est le label. Et dans ce label, on retrouve donc le protocole de test de casque, mais qui a vocation à grandir, puisque notre idée, alors on le fait avec nos moyens, hein, bien entendu, parce que ça, vous pouvez bien imaginer que c'est pas donné. Quand on teste un casque, en fait, déjà, il faut acheter, pour tester un modèle de casque, il faut acheter 7 casques, donc 6 qu'on va choquer, plus un qu'on envoie à Moto Magazine pour qu'on ait la partie conso motard aussi. Et donc après, il faut payer le banc de test, il faut payer les scientifiques qui font les tests, qui font les restitutions. Donc voilà, ça coûte une paille. Mais par contre, ce qu'on va essayer de faire dans les années à venir, on va travailler sur les autres équipements de protection individuelle. Donc voilà, je vous donne un scoop. Là, le prochain protocole de test qu'on va développer, ça va concerner les dorsales.
D'accord.
Alors, dorsales ou airbag? La question.
On aurait pu faire les airbags, mais vous savez, à la Mutuelle, on aime bien être près de nos sociétaires et on les rencontre souvent dans les assemblées régionales notamment. Et l'an dernier, c'est un débat qu'on a eu en assemblée régionale de la Mutuelle des Motards pour dire aux motards, qu'est-ce que vous voudriez qu'on teste comme équipement? Et en fait, ce qui est ressorti, c'est que les motards en général nous disaient, oui, on aimerait bien avoir des protocoles de test des airbags pour savoir s'il y en a qui protègent mieux que d'autres. Par contre, effectivement, ça a encore un coût assez élevé, même si au niveau de la Mutuelle, on, on abonde soit à l'achat, soit à l'abonnement de certains airbags pour essayer de démocratiser l'apport de cet équipement-là.
Mais ça reste cher quand même, hein, faut le dire.
Voilà, ça reste cher. Donc du coup, les motards ont collectivement voté pour qu'on travaille sur une dorsale parce que ça protège quand même, alors pas autant qu'un airbag, mais, et puis c'est pas forcément les mêmes zones, mais c'est une protection qui protège bien les zones arrière du dos, tout ce qui est rachis cervical et lombaire et même la colonne vertébrale, et que ça permet quand même d'avoir une protection correcte dans le dos pour une somme qui est nettement inférieure au prix d'un airbag aujourd'hui. Hein.
Donc là, on est plus sur le blouson, quoi, maintenant.
Oui, sur le type de blouson.
Oui, on est plus sur le... Si vous voulez, on peut parler blouson maintenant, oui, effectivement.
Parce que les dorsales, on en trouve directement dans nos blousons. Alors, qu'est-ce qu'avalent ces dorsales dans nos blousons, là, direct? Parce que là, peut-être que tu parlais des dorsales qu'on rachète en supplément et qu'on met sous le blouson, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Les dorsales, alors, elles peuvent être... Alors, les dorsales, déjà, il peut y avoir trois types de dorsales. Tout d'abord, ce qu'on appelle les dorsales intégrées, c'est celles qu'on met à l'intérieur du blouson, qui sont... il y a plusieurs matières, il y a du D3O, c'est celles qui sont oranges, il y en a des jaunes, d'autres matières, enfin, il y en a un petit peu de toutes les couleurs et les formes. On a ensuite les dorsales à bretelles. Mmh. Ça, c'est celles qu'on... Voilà, que... ça, c'est... Alors nous, on aime bien celles-là parce qu'elles sont près du corps et elles sont attachées. Parce que souvent, la problématique de celles qui sont dans les blousons, c'est qu'en cas de choc, si le blouson il n'est pas très ajusté au pilote, le blouson il a tendance à tourner un petit peu, à faire une rotation. Donc du coup, la dorsale, elle se déplace avec le blouson. Et parfois, finalement, on arrive quand même à avoir des lésions au niveau du dos. Alors qu'on a une dorsale, c'est parce que tout simplement, le blouson a tourné. Et du coup, le dos, il n'est pas bien protégé. Alors que celles qui s'attachent avec des bretelles, effectivement, du coup, elles sont plus près du corps et même si le blouson tourne, elles ne tournent pas forcément. Et ensuite, après, on a ce qu'on appelle chez nous les gilets. Ce sont ceux qui sont plutôt enfilés, qui ressemblent un peu à un gilet airbag, mais sans qu'il y ait l'airbag à l'intérieur. Et à l'intérieur de laquelle du gilet, donc il y a une dorsale arrière. Et il y en a même maintenant où on trouve des plastrons devant. Donc c'est vrai que ça protège un petit peu tout. Voilà, il y a ces trois types de dorsales. Après, au niveau des... Qu'est-ce qu'elles valent, ces dorsales-là? Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que... Alors, il y a deux niveaux dans les dorsales qui sont dans les blousons. On a les dorsales de niveau 1 et les dorsales de niveau 2. La différence, c'est qu'il peut... Déjà, elles peuvent être de deux tailles. Donc, on peut avoir des... en fonction de notre blouson. Et ce qui est important de savoir et de dire aux auditeurs, c'est que il vaut mieux privilégier une dorsale qui est la plus longue possible, c'est-à-dire si elle peut protéger du rachis cervical jusqu'en bas des lombaires, c'est mieux qu'une qui fait 30 cm de long. Quoi. Et la différence entre niveau 1 et niveau 2, c'est que la niveau 2, elle absorbe beaucoup plus d'énergie que la niveau 1, bien sûr. Hein. Alors, du simple au double, en fait. Hein.
Mais globalement, les dorsales de blouson, c'est peut-être pas suffisant, quoi. C'est rare de trouver des dorsales qui soient...
Alors, celles qui sont dans les blousons, c'est vrai que c'est mieux que de ne pas en avoir. On va pas
oui,
se mentir.
On est bien d'accord. Ouais.
Maintenant, moi, à la limite, si... Alors après, c'est toujours pareil. Quand on cumule tous les équipements qui sont nécessaires pour aller à la moto, c'est vrai que ça peut dissuader certaines personnes. Donc, il vaut mieux en avoir une dans le blouson que pas du tout. Maintenant, si on a la possibilité de s'en acheter une, après, celle à bretelles, on en a de très, très bonne qualité. Des dorsales à bretelles aux alentours de entre 50 et 70 euros.
Qui est enlevé, celle...
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il vaut mieux enlever à la limite celle du blouson et en mettre une à bretelles sous le blouson.
Tout à fait, oui. Bon, monsieur Laurent, je te propose qu'on fasse une petite coupure musicale quand même au milieu de tout ce débat. Et un groupe local, The Lookers.
Et ils sont du 40 ?
Non, ils sont pas du 40, ils sont du 64. Ouais, mais c'est
le voisin,
un bon petit groupe.
Ouais, sud-ouest.
Puis on est une radio locale, donc yes. Il faut faire connaître tout ce petit monde.
I won't spend my time 101.1 de Radio MDM.
Allez, chat, ça toute.
Bienvenue sur Radio MDM.
Radio MDM.
MDM.
Ah oui, MDM.
Et est-ce que vous avez vraiment un retour en tant qu'assureur au niveau des airbags? Est-ce que c'est, on voit nettement que ça protège vraiment le pilote, quoi?
Alors, aujourd'hui, on a... ça fait déjà 2 ans qu'on investit. Alors, on n'est pas les seuls, hein, on va pas, après, je vais parler de la Mutuelle des Motards, mais c'est vrai que les assureurs se sont engagés auprès de la direction de la sécurité routière déjà il y a 2 ans, en 2019. On a tous signé ce qu'on appelait le plan airbag, voilà, qui avait pour vocation de promouvoir le port et l'achat de ces équipements-là. Alors c'est vrai que expliquer que ça protège bien, ça c'est assez facile, hein, tout le monde est convaincu. Après, effectivement, il reste le frein à l'achat. Donc nous, ce qu'on a décidé en 2019, alors, je pense pour la Mutuelle des Motards, c'est de regarder chez nous quelles étaient les cibles les plus vulnérables, c'est-à-dire notamment les jeunes et les professionnels. D'accord. Donc la première campagne qu'on a faite, c'était adressée aux jeunes et aux pros. Et on a fait en sorte d'abonder à l'achat pour que ce soit un équipement qui soit accessible, on va dire, financièrement. Alors c'est sûr que plus il va y en avoir de vendus, et plus le prix va baisser.
Après, je pense que c'est quand même
alors, les retours.
Oui, ça doit être un équipement de toute façon qui... d'après ce qu'on peut voir, parce que bon, il suffit de voir en MotoGP voilà ce que ça donne, quoi. C'est-à-dire que c'est, depuis qu'il y a l'airbag, quand même, on a beaucoup moins de gros shoots, quoi, hein, de gros pets, quoi. Donc on peut imaginer que...
D'ailleurs, pour avoir discuté avec pas mal de fabricants, tous ont fait pareil. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, à un moment donné, je veux pas dire de bêtises, mais en 2013, ils ont commencé à investir sur les airbags, on va dire, en GP. Et ils se sont dit, si le particulier se rend compte que c'est bon pour les professionnels qui roulent à 300 km/h, forcément, moi, dans ma conduite de tous les jours, si j'ai ça, ça va me protéger. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'airbag est le seul équipement de protection individuelle qui protège des chocs sur les organes vitaux. En fait, c'est facile à comprendre. Tous les organes vitaux, ils sont devant. Donc, c'est bien de se protéger la colonne vertébrale, mais... ce qu'il faut imaginer, alors je vais essayer de le dire assez simplement pour que les gens le comprennent bien, c'est que si on a un choc, on chute même au sol de la hauteur de la moto à plat ventre sur le sol, à 90 km/h, on a, au niveau du thorax, on peut avoir un écrasement du thorax qui est entre 8 et 13 cm. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, vous de côté, c'est énorme. L'écrasement, et cet écrasement, il fait ce qu'on appelle des lacérations du cœur. En fait, c'est les côtes qui viennent déchirer le cœur. Et bon, ça, c'est létal, en fait. Hein. Donc, on a peu de chance d'y rester. On a le foie, on a la rate. Donc, bon, c'est des organes, malheureusement, qui sont touchés assez souvent en moto. Et en fait, l'airbag permet d'éviter un écrasement de plus de 5 cm. Donc ça veut dire que normalement avec un airbag, on peut avoir effectivement des côtes cassées, mais ça ne va pas venir au point d'écraser les organes internes. Enfin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un équipement qui est pas du tout à négliger. Maintenant, effectivement, alors après, on a plusieurs types d'airbags et ils ne protègent pas tous de la même façon. Je dis qu'il y en a qui protègent mieux que d'autres, mais je ne dis pas que ceux qui protègent le moins bien, ce ne sont pas des bons équipements. D'accord ? Que je tiens à le préciser parce que parmi le type d'airbag, on a d'abord les airbags filaires. Alors ce sont souvent des gilets qu'on met par-dessus son blouson moto. Et il y a un câble qu'on doit accrocher à la moto qui permet donc, en cas d'éjection de la moto, que le câble se tende, et ce câble, il vient, une fois qu'il s'est tendu, il vient déclencher une ou plusieurs cartouches de gaz qui vont libérer le gaz à l'intérieur de la poche, à l'intérieur de l'airbag, et ça va gonfler un coussin en fait qui va permettre de nous protéger. Alors, l'inconvénient de ces gilets-là, c'est que déjà, ils ont un temps de déploiement qui est assez long. Alors, il est assez long pourquoi ? Parce que vous imaginez bien qu'il faut d'abord tendre le câble. Ensuite, le câble, il va tirer sur un mécanisme qui va déclencher des cartouches de gaz. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que lorsqu'un airbag se déploie, Ça se fait en plusieurs temps. Donc, le temps de déploiement d'un airbag, pour qu'il soit efficace déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'il s'ouvre en moins de 90 millisecondes. Ça, c'est le temps optimal qui est mesuré. Donc ce temps, c'est, ce 60 millisecondes, c'est 80 millisecondes, pardon, excusez-moi, 90 millisecondes, c'est très très court. C'est l'équivalent de 2 battements de cils. Donc c'est quand même très rapide. Et en fait, ce temps de déploiement, il est décomposé en 3 phases. D'abord, il y a un temps de détection. Alors, le temps de détection, c'est le temps qui est nécessaire au système avant de décider d'agir. Ensuite, il y a le temps de déclenchement. Ça, c'est le temps qui est requis pour actionner le système de gonflage. Et ensuite, il y a le temps nécessaire au gonflage proprement parler. Alors là où il faut faire attention, où il faut que les gens soient vigilants quand ils achètent leur airbag, c'est qu'il y a certains commerciaux qui ont tendance à parler que du temps de gonflage. En disant, ouais, moi le mien, il s'ouvre en 50 millisecondes. Ouais, il se gonfle en 50 millisecondes, mais il n'a pas ajouté le temps de détection et le temps de déclenchement. Donc un airbag, il peut effectivement se gonfler en 50 millisecondes, mais si on rajoute le temps de détection et le temps de détachement, ça peut être une seconde et demie, voire 2 secondes. Et sachant que, pour vous donner un exemple, à 60 km/h, lorsqu'on a un motard qui vient percuter un obstacle, en fait, entre le moment où la moto commence à toucher l'obstacle et le moment où le pilote vient taper dans l'obstacle, il se passe à peu près 100 millisecondes. Donc, si vous pensez bien que si il met une seconde pour s'ouvrir, le gilet, c'est trop tard. Quoi.
Ça a déjà tapé.
Okay. Voilà, donc c'est important de ne pas se contenter, quand on doit acheter un airbag, bien demander le temps de déploiement total de l'airbag. C'est ça qui est important.
Mais après, bon, voilà. C'est vrai que ça pose aussi pas mal de problèmes, parce que c'est vrai que l'airbag qu'on accroche, à la limite, on peut changer de moto. L'airbag qui déclenche électroniquement pose problème lui aussi, parce qu'il n'y a pas une partie électronique sur toutes les motos.
Exactement, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Alors, donc pour finir sur l'airbag filaire, en fait, souvent ce qui pose souci, c'est pas que l'airbag il est mauvais, les airbags filaires, il y en a des très bons. Ce qu'il y a souvent, c'est que c'est les gens aussi qui l'accrochent mal. Ah. Parce que ce câble, souvent, on l'a et on se dit, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets où? Je l'accroche où? Alors, moi, souvent, régulièrement, ça m'arrive au bord de la route d'arrêter des gens en disant, oh, il ne faut pas que ça s'accroche pas au guidon. Je dis, oui, imagine, si vous l'accrochez au guidon quand tu es éjecté, ça fait un système de balancier. Et du coup, le motard, il passe par-dessus son guidon. Et en fait, c'est une fois qu'il est à 3-4 mètres devant sa moto que le câble est tendu.
Ouais.
En fait, l'idéal serait de l'accrocher derrière soi. Bon, c'est assez difficile. Moi, ce que je dis aux gens, c'est soit vous l'accrochez juste devant votre selle, soit vous l'accrochez à la verticale au niveau du cadre, pour qu'il soit déjà plus ou moins prétendu avant. Voilà. Parce que bon, ça, c'est le premier point. Après, tu l'as dit, effectivement, il y a ce qu'on appelle des airbags radiocommandés. Alors ça, il y a toute une partie électronique qui est sur la moto et qui communique avec le gilet qui, lui, pour le coup, on n'a pas de câble, donc c'est vrai qu'on est plus libre de se déplacer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour les airbags filaires, je reviens 2 secondes, 90%, alors ça, c'est des sites des fabricants, hein, mais 90% des déclenchements d'airbags, c'est des déclenchements intempestifs. C'est le gars qui descend précipitamment de sa moto alors qu'il a oublié de décrocher son airbag, il se retrouve gonflé.
Oui, mais c'est la peur de
voilà,
tout
donc,
ça.
Le radio, l'avantage qu'il a, effectivement, c'est qu'il est en communication avec la moto. Alors, l'inconvénient qu'il a, ça c'est un avantage, puisqu'il n'y a pas de câble. L'inconvénient, c'est que si on a plusieurs motos, on n'est protégé que sur une moto. Quoi.
Oui, et puis après, il y a les airbags qui se mettent sous le blouson, les airbags qui se mettent au-dessus du blouson.
Exactement. Après, il y a les gilets autonomes, qu'on appelle. Alors là, ce sont souvent des gilets soit qui se mettent sous le blouson, soit maintenant, ils sont pour la plupart intégrés déjà dans le blouson. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'airbag. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, « Ouais, mais l'électronique, moi, ça me fait peur, parce que si ça tombe en panne... Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que pour la plupart, alors, je ne vais pas citer de marque, mais en fait, quand dans le boîtier, par contre, la partie électronique est dans le gilet, donc il y a des gyroscopes, des accéléromètres, tout ça, en fait, tout est doublé.
En fait. D'accord.
Il y a 2 circuits pour justement, s'il y en a un qui devait venir à lâcher, que vous soyez quand même protégé. Bon. Et l'inconvénient, par contre, d'un gilet autonome, c'est que c'est la durée de la batterie.
Ah.
Moi j'en ai un par exemple, il tient à peu près une 30aine d'heures de roulage.
Donc faut y penser ça. Bon, sinon, parce
oui,
que
il vous prévient le gilet, hein, de toute façon.
Ouais, le temps tourne très vite. Deux mots sur les pantalons et les chaussures qu'on a tendance à négliger, quand même.
Oui, tout à fait. Alors, les pantalons et les chaussures, effectivement, même si ce n'est pas obligatoire, c'est super important. Alors, concernant les chaussures, ce que je tiens à dire, c'est que bon, aujourd'hui, il y a une norme, hein, qui régit tout ça. Il faut déjà qu'il y ait une norme CE sur sur les bottes ou sur les chaussures, c'est important. Et ces bottes, c'est pareil, en fait, ou ces chaussures. Donc, il y a CE, et à côté de ça, on a deux indicateurs. On a des chiffres et des lettres. Donc, en fait, le premier chiffre qu'on va avoir, c'est soit, à chaque fois, c'est soit 1, soit 2, hein, comme pour les équipements dont on a parlé avant. Sachant que le premier chiffre, il va, que ce soit 1 ou 2, il va parler de la résistance à la coupure. Le deuxième chiffre, ça va être de la résistance à l'abrasion. Et trois, la résistance à ce qu'on appelle, je vais dire simplement la torsion, en fait. Est-ce que la botte, elle va se tordre ou pas? Donc voilà. Donc déjà, quand vous avez l'étiquette CE avec une petite moto dessus, avec un motard qui est sur sa moto, plus des chiffres et des lettres, ça vous permet d'être sûr, déjà, un, que c'est un équipement qui est spécifiquement étudié pour la pratique du deux roues, et deux, ça vous permet de mesurer l'efficacité de l'équipement que vous achetez. Et ce qui est important, c'est toujours d'acheter soit des bottes, soit des chaussures, mais qui soient, pour les chaussures en tout cas, des chaussures montantes.
Oui, c'est
parce
ça.
Que, alors, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais la blessure la plus fréquente et une des plus handicapantes au quotidien, c'est la fracture de la malléole. Donc c'est lorsqu'on a sur le côté de la cheville. Hein. Donc voilà, donc c'est d'avoir des chaussures montantes ou des bottes permet souvent d'éviter ce type de fractures qui sont, bah, je le répète, assez handicapantes, parce que quand on a la cheville qui marche très bien, on ne s'en rend pas compte, mais quand on a une fracture de la malléole, on a souvent le pied bloqué après.
Non mais si on veut résumer ce qu'on a dit, donc c'est dans un premier temps, donc les gants homologués avec les références qui vont bien et la petite moto qui est dessinée dedans, à chaque fois on retrouve une petite moto. Pour ce qui est du casque, c'est pareil.
C'est
donc
ça, tout à fait.
Ouais. On se méfie et on sort de sa tête que le casque le plus cher est meilleur. Et au niveau des chaussures, c'est exactement pareil. Et si on n'a pas de bottes ou ce genre de choses, on roule de toute façon avec des chaussures montantes. Il nous resterait de discuter du pantalon. Ouais. Si tu as 2-3 choses à nous dire sur le pantalon, puis après on va être obligé de te quitter parce qu'on ne va plus avoir le temps.
Parfait. Alors le pantalon, très rapidement, là pareil, il y a une norme qui traite de la qualité des pantalons qui sont spécifiquement étudiés pour la pratique du deux roues. Donc là pareil, hein, l'étiquette CE avec une petite moto à côté. Et ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir un pantalon super moche pour faire de la moto. Aujourd'hui, il y a des pantalons en textile, il y a des pantalons en jean, et même les jeans aujourd'hui, ils ont une matière à l'intérieur qui s'appelle de l'armalite et qui est très très résistante à l'abrasion. Donc on peut faire de la moto en étant coquet, entre guillemets. Voilà ce que je peux dire sur les pantalons, et que même effectivement, si vous n'avez pas du tout d'équipement spécifique pour pratiquer la moto, ben, au moins mettez un jean de ville, ça pourrait être toujours mieux comme pantalon en toile, quoi.
Voilà, et puis adhérer à la Fédération Française des Motards en Colère, réclamer une TVA 5,5 sur tous les éléments de sécurité, et puis ça sera déjà quelque chose de gagné, quoi. Ça sera déjà une bonne chose.
Exactement.
Eh bien, on te remercie.
Merci Laurent.
Pour tous ces conseils et toutes ces informations. Peut-être on se retrouvera à un autre moment dans l'année pour
un autre sujet.
Un autre sujet.
Avec plaisir.
En attendant, passez de bonnes fêtes de Noël. Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis, les éléments de sécurité peuvent être des cadeaux. Hein.
Ouais.
Voilà, maintenant que tout le monde est au courant.
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup Laurent.
Salut Laurent. Au revoir tout le monde.
Bonne journée à vous, les gars.
Et bonne fête.
Bon, voilà. Une bonne petite émission quand même. Là, maintenant, je pense que tout le monde est au fait des équipements, des airbags, des bottes, des casques et tout ça, quoi. Ouais.
D'ailleurs, les casques, ça t'intéressait parce qu'on revient d'une petite balade et puis t'en as pris plein la tête, toi. T'avais pas de saut de vent. Hein.
C'est ça. On avait dit qu'on en parlerait sur l'oreillette des motards. On va faire l'oreillette du motard.
Donc, on fait l'oreillette des motards.
Monsieur, en introduction, vous avez quand même mis un petit peu l'eau à la bouche avec Nous sommes allés à Valence. Alors.
Au Grand Prix.
Au Grand Prix.
Dernier Grand Prix de.
Moto de Valence, de Valentino Rossi.
Yes.
Et on voulait absolument voir cette course, donc on s'y était pris depuis un certain temps. Ouais. Et puis rencontrer notre champion du monde.
Oui.
Parce que quand même, c'est un grand moment quand même. Un seul champion du monde français, Fabio Quartararo.
Premier.
Premier. Mais j'espère que l'année prochaine, ça va aller pour lui.
Ouh, ça va être dur. Ça va être dur.
Bon, alors, Valence, alors.
Les Ducati en force. Hein, c'est l'Armada Rouge.
L'Armada Rouge, et puis ça promet pour l'année prochaine, parce qu'ils vont en présenter 8, a priori, sur la grille.
Mm-hmm.
Et aux essais de RRS, on a vu que du rouge, quoi.
Ouais. Ah, par contre, on a vu du jaune dans les tribunes. Hein.
Ah, ça.
À Valence, on a vu du jaune. Hein. Et puis, un super soleil.
Et vive l'Espagne.
Ouais, vive l'Espagne. La bière à 1 euro, bon, bah, il ne faut pas en abuser. Hein.
Et puis, une course assez moyenne, sauf qu'on s'est régalé quand on a vu Bagnaia tirer M. Rossi pour qu'il puisse se qualifier
dans les 10,
direct en Q2. Et c'est vrai que c'était impressionnant, quoi. C'était un bon grand moment, quoi. Ouais.
Et Valentino qui a bien terminé, quoi. Il a tenu sa place, il a fait dixième. Donc à combien? Même pas, je crois que c'est à 3 millièmes ou... Non.
3 millièmes, ça ne fait pas beaucoup, non.
3 dixièmes.
Peut-être, 3 dixièmes. 3 dixièmes,
ouais.
Alors après, bon, alors donc on était sur place, on voulait représenter Radio MDM en force, Carbut 40 à Valence. Bon, par contre, on a loupé un peu toute la fiesta qui était dans les paddocks et tout ça, parce que là d'où on était, on pouvait pas avoir tout ça.
On était dans les tribunes, moins dans les tribunes de l'autre côté, quoi.
Après, un très beau circuit.
Ouais. Un beau site, hein, pour voir les courses. Hein.
Un superbe site, super bien placé. Après, ce qui était impressionnant aussi, c'est de voir tous les essais, Moto 3, Moto 2, GP, et de voir la différence en fin de compte. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on était placé, on voyait bien, on avait la deuxième ligne droite, hein, donc à l'opposé du circuit, sortie de virage. Gaz, et là on voyait bien comment les GP passaient et à quelle vitesse ils passaient par rapport aux Moto 2 ou aux Moto 3. Ça, moi, j'ai vraiment été impressionné.
Un beau moment, quoi.
Les Espagnols, super. Ouais, franchement, une ambiance dans les tribunes en t-shirt pendant les 4 jours.
Avec des belles houlas.
Avec des belles houlas aussi. Ouais. Et du jaune partout.
Ouais, à l'apéro aussi. Hein. Avec modération toujours.
Ouais, mais là, que du 51, quoi. Donc ça allait.
Bon, mais sinon, à part ça, sur l'oreiller des motards, tu as quelque chose à me dire? Moi, je vais dire du local tout de suite, comme ça, voilà, qu'on ne les oublie pas. Bourse, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a une bourse à Damazan début janvier, le premier week-end de janvier. Donc,
si elle n'est pas annulée.
Pour le moment, elle est maintenue. Hein, d'accord. Et sinon, il y a...
Sur 2 jours, toujours?
Oui, toujours sur 2 jours. Et après, au niveau concentre, ceux qui ont envie de rouler l'hiver, eh ben, il y a les Pingüinos, qui se déroulent le 13 et le 16 janvier à Valladolid, en Espagne, si vous voulez rouler un petit peu dans la neige. Et les 1000 vaches, donc, qui sont déjà en décembre, 10 et 12 décembre, sur le plateau,
va aller vite,
donc
hein.
Meyrac en Corrèze.
Et il y a de la neige.
Il y en aura sûrement, hein, j'ai l'impression qu'on est bien parti pour, quoi.
Donc une belle balade en perspective pour ceux qui veulent y aller. Inscription à l'avance.
Oui, ou même sur place, à mon avis, il y a encore de la place. Hein. Sinon, pour terminer l'année, un petit cadeau pour ceux qui veulent faire un petit cadeau à un motard. Il y a un site qui s'appelle maintenant Cap de Cap de Lolo Cochet, où il a sorti un nouveau bouquin. Moi, j'avais acheté le sien l'année dernière, et donc il en a sorti un autre. Voilà.
Sur quoi? Sur une de ses balades aussi?
Sur une de ses balades, dont le Burkina Faso, le Maroc et tout, en mobylette. Donc, ça rappelle de bons souvenirs, quoi. Voilà.
Bon, bah ok, et puis bah, tous les cadeaux par rapport à l'équipement, hein. Tout ce qu'on a vu avant pour Noël, ça peut être bien sympathique. Quoi.
Et un salon, là, qui le seul salon de l'année, a priori, c'est le salon de l'ECMA, donc à Milan, qui se sera déroulé quand vous écouterez ça. Donc vous pouvez aller voir sur YouTube un petit peu les dernières nouveautés.
Et ben voilà. Très bien.
Voilà.
On vous souhaite de bonnes fêtes,
ouais.
De bien vous éclater. Et puis on se retrouve au mois de janvier, avec tous les vœux de nos concessionnaires.
Et de nos concessionnaires.
De nos concessionnaires. Ils sont concessionnaires.
Allez, alors passez de bonnes fêtes à tous.
Bonne fête.
Ciao,
alors.
Ciao. And what